lundi, à 17h35, retrouvez-moi sur Altitude FM en compagnie de Lolo pour notre chronique Ma vie au zoo, une aventure au cœur du royaume animal.
Bonjour Sylvie.
Bonjour Lolo.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc bienvenue donc, dans ce nouveau numéro de Ma vie au zoo. Aujourd'hui, Sylvie, nous avons décidé de parler de la conservation, le rôle du zoo dans la conservation des animaux. Comment, première question, donc, comment ton travail et celui des soigneurs contribue-t-il à la conservation des espèces en danger ?
On contribue à la conservation des espèces menacées par plusieurs biais, en fait. Bah déjà, tout simplement parce qu'on est des élevages d'animaux exotiques, sauvages, à la base. Donc, en fait, on peut ainsi, en les faisant se reproduire de manière ordonnée, conserver une génétique suffisante pour pouvoir participer à des plans de réintroduction par la suite. Alors, ça a été le cas pour les oryx salgazelles, par exemple, qu'on a également aux zoos et qu'on fait reproduire. C'est-à-dire que c'est une antilope qui avait complètement disparu de son milieu d'origine. Et il y a eu des programmes de réintroduction qui ont été initiés en Tunisie, au Sénégal, au Maroc et dans les Émirats arabes récemment. Donc nous, on avait envoyé un individu d'ailleurs dans les Émirats arabes pour participer à cette phase de réintroduction, pour remettre ces animaux dans leur milieu d'origine. On l'a fait également avec les chevaux de Przewalski, avec plusieurs espèces de vautours. Donc ces programmes peuvent marcher. Et on arrive à, par ce biais, participer directement à la protection et même à la réintroduction d'individus dans leur milieu d'origine. Alors comment on s'organise ? Alors on s'organise au niveau de l'Europe, généralement. Donc faut savoir que pour les espèces menacées, elles sont généralement gérées au niveau européen, au niveau de l'Association européenne des parcs zoologiques, par des plans d'élevage. Donc ça veut dire qu'il y a une personne en Europe qui est en charge de s'occuper, par exemple, des girafes. Mmh. Donc cette personne se fait aider par un bureau qui est élu par les personnes qui ont des girafes en Europe. Un bureau est élu et tous les ans, deux fois par an, ce plan d'élevage, tous les membres, le bureau et le responsable, se réunissent pour tracer les grandes lignes, les lignes directrices pour une espèce donnée, ainsi que les relations que cette entité va avoir avec les autres plans d'élevage au niveau du monde et également des projets de réintroduction en Afrique, pour exemple. Donc, et tous les ans, ce plan d'élevage décide des individus qu'on va recevoir ou qu'on va faire partir de nos structures. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas ce que je veux de mes girafes. Si on a deux girafes d'Angola. Bon, au niveau de l'Europe, la population est en train de s'éteindre. En fait, il n'y avait pas assez d'individus. Donc, on va changer d'espèce, mais je ne vais pas, de sous-espèce de girafe, mais je ne vais pas, moi, choisir les individus que je vais recevoir. Le responsable EP va me dire, tiens, toi, tu vas prendre des individus de là et de là. Et on repartira sur un groupe reproducteur. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il soit sûr, lui, d'associer un mâle et des femelles qui ne sont pas consanguins. Donc, d'accord. Il va falloir vraiment, lui, qui travaille là-dessus. Sinon, les individus ne pourront pas sont fragiles et ne pourront pas être réintroduits dans de bonnes conditions. Donc, lui, son rôle, il est vraiment là de gérer avec son bureau la génétique. Sachant qu'en plus, au niveau de ses rôles, il établit aussi des guides d'élevage avec l'aide de son bureau pour savoir, si on veut recevoir des girafes, à quels critères on doit remplir. Donc voilà, il y a un gros travail au niveau de ces plans d'élevage européens qui font qu'on va participer avec les individus qu'on élève de manière intelligente à la protection d'une espèce. Donc voilà, en brassant avec des brassages génétiques, des transports d'animaux, etc. Voilà.
Sous la direction de cette entité.
Voilà, c'est ça. D'accord. Donc tout va être raisonné. Ça veut dire que si on veut réintroduire des individus d'une espèce donnée, comme les oryx, ça a été le cas, ils ont tout l'historique génétique des individus et ils savent quels individus il faut envoyer dans les Émirats arabes pour être complémentaires des populations déjà présentes là-bas pour qu'on ait après des individus, quand ils vont se reproduire, intéressants pour la réintroduction.
Oui, il faut que ça fonctionne après dans la longévité de l'espèce. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des fragilités.
Fragilités génétiques. Donc voilà, au niveau de notre contribution à la conservation des espèces menacées. Donc, comme on en a parlé aussi dans une autre émission, on y participe aussi en aidant des projets in situ, on dit. Donc il y a l'élevage ex situ, c'est nous, c'est ce qu'on fait en parc zoologique, c'est en dehors de leur milieu d'origine, et in situ, comme on peut soutenir le projet à Madagascar, plus récemment le projet à Bintan. Donc tout ça, en fait, on va soit par des moyens humains, soit par des moyens financiers, souvent financiers, aider des associations sur place pour protéger la biodiversité locale. Alors souvent, ça passe par protéger les animaux. Il y a un gros volet en général éducation. Donc à Madagascar, c'était par exemple le projet de Delphine. Elle était dans une zone où les enfants n'allaient pas à l'école. Donc elle a commencé par créer des écoles avec un repas pour les enfants par jour, ce qui est beaucoup pour eux, parce que parfois ils mangent qu'une fois par jour. Donc voilà, elle a commencé à créer tout ça, à créer du travail, des fabrications d'objets, etc., pour pouvoir financer et rémunérer les villageois, etc. Donc c'est des gros projets. Donc on peut participer aussi à ces projets in situ pour aider à la conservation des espèces menacées. Donc c'est un volet qui est important. Et après, on a une troisième façon. Donc là, c'est un peu plus particulier. Donc j'ai un étudiant qui a fait sa thèse, enfin qui est en train de faire sa thèse dessus, sa thèse vétérinaire. C'est sur les élevages conservatoires. C'est-à-dire qu'on va proposer pour la biodiversité locale, on va proposer à l'État d'élever une espèce donnée pour pouvoir par la suite la réintroduire. Il y a des espèces pour lesquelles c'est un besoin de les étudier ou de les faire se reproduire, comme le wison d'Europe, pour pouvoir après les réintroduire chez nous. Donc ça, c'est un troisième volet. J'ai fait faire cette thèse par un étudiant vétérinaire qui a fait le bilan de tout ce qui est fait en France au niveau justement élevage conservatoire, parce qu'on n'avait aucune idée, tout le monde fait ça un peu avec les autorités locales, ce qui est très bien, mais pour avoir une idée un peu de ce qui se faisait, et pour savoir, nous, ce qu'on pourrait faire comme élevage conservatoire qui serait intéressant pour la biodiversité française. Donc on est arrivé à deux plans. Donc le zoo a un grand projet de remodelage et d'agrandissement du zoo. Et a priori, on serait parti sur deux espèces en particulier. D'autres peuvent se rajouter encore, des petites espèces. Mais le dessement des Pyrénées, qui n'a jamais été élevé en captivité, n'a jamais
c'est reproduit. C'est quoi le dessement des Pyrénées?
Alors, on l'appelle le rat trompette aussi.
Oui.
C'est un petit mammifère qui vit dans les cours d'eau dans les Pyrénées, endémique des Pyrénées. Il n'y en a nulle part ailleurs. Donc, il y a deux individus qui sont maintenus en captivité en Espagne depuis quelques années sans reproduction. Et ce sont les deux seuls individus qui ont été maintenus en captivité un peu longtemps. Donc rien n'est connu sur cette espèce. Elle est très, très, très importante pour la biodiversité locale. Ils mangent beaucoup de larves d'insectes, etc. Ils participent à la dynamique des Pyrénées au niveau biodiversité. Donc l'idée, en collaboration avec le CEN Midi-Pyrénées, ce serait d'avoir certains individus pour les étudier et pour potentiellement les reproduire et les réintroduire après dans leur milieu, dans les Pyrénées.
D'accord. Donc, et qu'est-ce que tu entends par étudier ?
Étudier, voir leur comportement. Effectivement, les deux individus qui sont en Espagne, ils ne se reproduisent pas, mais c'est peut-être parce qu'ils se voient trop. Enfin, on a des problématiques similaires avec d'autres espèces, nous, en parc zoologie, comme les rhinocéros ou les guépards, qui, s'ils sont ensemble tout le temps, ne se reproduisent pas. Donc, c'est peut-être le cas. Il y a beaucoup de choses à savoir. On sait à peu près ce qu'ils mangent, mais on n'en est pas certain. Donc, il y a une étude actuellement très intéressante qui est faite par le CEN dans le milieu d'origine. On les a rejoints cet été, l'espace d'une soirée, pour assister à des captures, justement, parce qu'ils mettent des balises pour voir déjà où ils vont, où ils vivent.
Oui, ce que j'allais te dire, là, c'est dans leur milieu naturel.
Donc, ce serait de combiner les deux, quoi.
Voilà, donc, les observer dans leur milieu naturel.
Voilà. Et nous, on les observerait en captivité. Et l'objectif étant d'arriver à trouver les stratégies pour les maintenir dans de bonnes conditions et pour qu'ils se reproduisent, pour éventuellement, après, pouvoir en réintroduire dans certaines rivières où ils ne sont plus.
Oui, où ils étaient, mais où
ils ne sont plus. Ouais.
Toujours dans les Pyrénées. C'est on ne va ça. Pas en amener ici. Ah, dans l'Ariège, par exemple, ça aurait aucun intérêt.
A priori, non. Oui, on évite de faire même ce genre de transfert.
J'avais une autre question. On parle d'espèces menacées, d'espèces en danger. Il y a plusieurs catégories comme ça, d'évaluation des espèces. Comment on peut établir ça, en fait?
Alors, c'est le rôle de l'UICN qui gère ça au niveau international. C'est une ONG qui arrive à établir une approximation du nombre d'individus restants dans le milieu d'origine de l'espèce. Donc, en fonction de certains critères, elle répartit ces espèces dans différentes catégories. Et il y a certaines catégories qui sont classées espèces menacées. Donc, si l'espèce fait partie de trois des catégories, elle est considérée comme menacée d'extinction. Et à ce moment-là, ça peut déclencher des programmes au niveau local, notamment, déjà. Nous, au niveau français, il y a des programmes, les PNA, Programmes Nationaux d'Action, qui sont mis en place par l'État, pour le coup, pour les espèces menacées au niveau français.
Donc vous, les zoos, vous pouvez être amenés à récupérer des espèces en danger, menacées, pour justement préserver cette espèce.
C'est ça.
Ça fait partie de votre rôle aussi de zoo.
Mais disons qu'on le fait déjà sans forcément,
contrainte, oui.
Voilà, puis sans participer. On ne participe pas forcément à un plan national d'action. C'est hyper réglementé et très restreint de participer. Parce que pour réintroduire des individus, c'est tout un cheminement, c'est très compliqué. Il faut que ce soit vraiment très bien cadré par l'État. Ça existe. Nous, c'est l'objectif, un de nos objectifs, c'est de participer justement à ces plans nationaux pour avoir vraiment un impact significatif sur la biodiversité locale. Elle est très importante, bien sûr. Donc, c'est de nous rattacher au PNA, et ce serait le cas donc, dans nos projets pour le Dessement des Pyrénées et pour l'iguane des Petites Antilles aussi.
Ah, l'iguane des Petites Antilles. Ah,
le gros iguane des Petites Antilles, parce qu'il est gros quand même. C'est les Antilles, petites, mais...
et justement, qu'est-ce qui fait que ces espèces soient menacées, en danger
Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent être, qui sont possibles. Alors, ça peut être la pollution de l'environnement, ça peut être le réchauffement climatique pour certaines espèces. Là, il y a notamment le lézard des Pyrénées, donc qui est en train de disparaître. On ne sait pas s'il va survivre au réchauffement climatique. Et il y a un troisième élément aussi, c'est l'occupation de l'espace par une autre espèce, une nouvelle espèce. Une espèce qui n'était pas présente avant. Par exemple, le lézard des Pyrénées, il s'hybride avec le lézard des murailles qu'on a dans nos jardins. Et en conséquence, le lézard des Pyrénées disparaît génétiquement.
D'accord.
Donc il est hybridé. Et c'est le cas aussi de l'iguane des Petites Antilles, parce qu'il y a des iguanes verts qui ont été importés en Martinique, Guadeloupe et sur les autres îles où il y avait l'iguane en question. Et cette iguane, l'iguane vert, l'iguane commun, s'hybride avec l'iguane des Petites Antilles. Mais il n'a pas les mêmes caractéristiques physiques que celui-ci, et ça peut pousser à la disparition de l'iguane des Petites Antilles.
D'accord. Et il y a aussi, enfin je pense aussi à une cause, tu parlais de l'occupation d'une autre espèce animale,
oui.
Mais l'occupation de l'être humain aussi.
Aussi, mais bien sûr, oui.
Voilà.
Puis le fait qu'on prend des animaux domestiques, enfin, on veut avoir des animaux chez soi, on peut les prélever dans la... Ça a été une cause aussi de disparition importante à un moment donné. Et du fait que certaines espèces ont été protégées, notamment les tortues terrestres, qui ont été protégées parce que les gens ramassaient... On revenait d'Afrique du Nord avec des tortues dans leur valise. Mmh. Et ça, c'était un peu catastrophique. Maintenant, ça va mieux, il y en a. Mais ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles... Et souvent, l'humain, comme les chats Bintan, souvent, l'humain arrive avec ses animaux. Notamment, ça a été le cas pour le dodo de l'île Maurice. On est arrivé avec des rats dans les bateaux. Le dodo, il a survécu 60 ans, ou je ne sais plus, 70 ans à notre présence. Ouais. Donc effectivement, on est un facteur important aussi. Et il y a le commerce aussi, bien sûr. Il y a tout un tas d'activités humaines.
Aussi, les activités humaines, oui, je pense, qui est facile à observer chez nous, c'est le hérisson, par exemple. Mmh. On demande aux gens qui ont des hérissons dans leur jardin de leur laisser des croquettes l'hiver, de leur laisser un tas de feuilles ou un tas de bois pour qu'ils puissent hiberner tranquillement. C'est vrai que ce sont des moyens aussi de sensibiliser les gens.
Tout à fait, c'est très important. Et après, bon, au niveau disparition des espèces, il y a aussi les activités humaines. L'huile de palme qui est produite de manière...
Déforestation.
Ouais, c'est ça. Donc là...
Même nous, enfin, je pense à nos routes, parce que je pense aux hérissons encore, on en voit je ne sais pas combien tous les jours sur les routes, les pauvres.
Ouais.
Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on n'est pas encore aménagé sur les routes où on en voit le plus, des galeries ou des espaces où ils peuvent justement passer sous la route. Ça existe déjà, pourquoi ce n'est pas plus appliqué et ça devrait rentrer dans le
cahier des charges.
Exactement,
des constructions de
route. Ouais. Donc, quelles sont les espèces, toi, aux zoos, que tu as, qui sont le plus en danger aujourd'hui sur la planète et que tu as aux zoos ?
Il y en a quelques-unes, oui. Il y en a les rhinocéros blancs. Alors, les éléphants, ça dépend des zones, en fait. Il y a des zones en Afrique où il n'y en a plus, il y en a des zones en Afrique où il y en a trop. Les tigres de Sibérie, les jaguars aussi, les guépards. On en a pas mal. Hein. On en a un certain nombre, les capucins poitrine jaune. On a quand même les binturongues, les pandas roux. On a quand même pas mal d'espèces. Et l'objectif, c'est d'avoir de plus en plus justement d'espèces de ce type, d'espèces menacées dans nos structures pour participer à la conservation.
Et pourquoi les conserver, ces espèces ?
Parce qu'il y a des zones où on peut les relâcher, en fait. Donc, on n'est pas sans espoir.
Donc, ça permet de garder un équilibre.
De garder un équilibre, de garder ces espèces et leur côté unique, et de pouvoir, on espère, à un moment donné, les remettre dans leur milieu d'origine. Et il y a une autre partie aussi, c'est que ça permet aussi de sensibiliser les gens à la biodiversité, à l'importance de la biodiversité. Alors, on passe, nous, c'est vrai, par la biodiversité exotique,
oui.
Mais on insiste au niveau du zoo pour parler beaucoup de la biodiversité locale. Et ça nous tient vraiment à cœur, parce que en les sensibilisant avec une biodiversité exotique, on arrive à leur faire mettre le doigt sur leur propre biodiversité.
Oui, on amène le sujet plus facilement.
Oui.
Que si on leur parlait directement.
Il suffit de lever les yeux de la tablette ou du téléphone pour voir qu'il y a d'autres choses dans la vie que ça.
N'est-ce pas ?
N'est-ce pas ?
Donc, pour nous, de notre jardin déjà. Et puis,
il y a déjà beaucoup de choses à voir.
Oui, tout à fait. Concernant la conservation des animaux, il y a quand même beaucoup de travail encore à faire au niveau du zoo proprement dit, puis de la sensibilisation auprès des
visiteurs. C'est ça, et des gens visiteurs. Au quotidien. Effectivement, comme tu disais, avec les hérissons, il ne faut pas ramasser les chouettes aussi quand elles sont au sol, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à... On peut faire des hôtels à insectes qui permettent de faire que la pollinisation se passera beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses à faire, de petits indicateurs, de choses très pratiques et très simples.
Oui, parce qu'il y a aussi, on parlait de l'activité humaine. Il y a tout ce qui est produits chimiques, les désherbants, les... Tout ça, ça...
Il faut arrêter.
Ça, voilà. Il faut arrêter, c'est clair. Sylvie, si tu veux conclure sur la conservation des animaux, je te laisse la parole.
Alors, la conservation, en résumé, donc nous, ce qu'on peut faire au niveau de nos structures, c'est élever des animaux, parce qu'on est des éleveurs de tout type d'animaux, dans l'objectif de, à la fois, sensibiliser le public à la biodiversité et dans un but, si possible, de réintroduire certains des individus dans leur milieu d'origine dans quelques années ou... Voilà. Après, aider les associations sur place. Donc ça aussi, les gens peuvent aider des associations de protection de la biodiversité, même à côté de chez eux, il en existe. Donc ça, c'est un rôle aussi qui est important. Et après, on verra, nous, pour élever ces fameuses espèces françaises dans quelques années, dans 5 à 10 ans, pour vraiment avoir un élevage qui permettra d'introduire dans le milieu d'origine un certain nombre d'individus et aussi tout le monde. Un point important, tout le monde peut participer à cette protection de la biodiversité.
Sans faire de gros efforts.
Sans faire de gros efforts.
Tout à fait. Merci Sylvie.
Merci Lolo.
À bientôt.
À bientôt.
Vous pouvez retrouver notre chronique sur les réseaux sociaux d'Altitude FM et sur le site altitudefm.net ou venir nous voir au zoo African Safari à Plaisance-du-Touche. À bientôt.